Vous écoutez France Musique.
Merci Françoise de Georges. Eh bien, quand vous êtes prêts, si vous êtes prêts, nous sommes prêts, tout le monde est prêt, le décollage.
Absolument.
Chemin rêvant, Olivier Naoum.
Bienvenue dans Chemin rêvant, ultime rendez-vous sous les étoiles. Et pour partager ce moment, après plus de 130 invités, 700 morceaux diffusés depuis 3 ans, eh bien, il nous fallait regarder les étoiles et regarder le mystère, celui du satellite Planck, titre d'un livre écrit par vous, messieurs, ce soir, Igor et Grishka Bogdanov. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Vous nous racontez dans ce livre l'improbable, l'impossible. On lance un satellite. On sait à l'époque, quand il est lancé en 2009, qu'il va devoir explorer presque le surmoi de l'univers. Et il revient de cette aventure. Nous sommes en mars 2013. Et là, il arrive à nous démontrer que cet univers, celui que nous connaissons, a eu une petite enfance. Et avant la petite enfance, il y a eu cette période de gestation. Mais vous, qui vous intéressez au mystère de l'univers, est-ce que on peut dire que dans cette recherche sur ce qu'il y a eu avant le Big Bang, donc avant ce point de départ, est-ce que votre réflexion, elle est aussi poétique, est-ce qu'elle est aussi musicale? Parce que vous rentrez presque dans le non-dit, dans l'invisible, puisque si on résume les faits, le point de départ de l'univers est infiniment petit. C'est 10 puissance combien?
C'est 10 puissance moins 33 cm en rayon, en longueur, et c'est 10 puissance moins 43 secondes pour ce qui concerne le temps. Donc c'est une fraction incroyablement brève.
Alors la poésie, elle vous guide ou pas?
Alors vous avez posé la question très importante de la musique. En fait, on en parlait l'autre jour avec Grishka, on se disait que finalement, on pourrait comparer l'avant Big Bang à une partition. Une partition de musique, une partition parfaite. On a souvent tendance à associer, par exemple, Bach, le cantor de Leipzig, qu'on l'appelait, à une métrique. La métrique de cette musique. Et nous, Grishka et moi, nous sommes intéressés depuis toujours à la métrique de l'univers. La métrique qui pouvait régner justement avant le Big Bang, qui n'est pas la métrique que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est pas une métrique dite lorentzienne, mais qui est une métrique euclidienne. Donc, en effet, le parallèle entre la musique d'un côté l'exploration théorique des tout débuts de l'univers, ou en tout cas même avant le Big Bang, ben, ce parallèle-là est tout à fait légitime.
D'ailleurs, c'est vrai que la musique, c'est quelque chose de très organisé, de très ordonné, d'harmonique, hein, par essence. Et la partition à laquelle Igor fait allusion, qui serait une sorte d'écriture originelle, avant même le Big Bang, c'est la différence qui sépare la musique du bruit. Le bruit est quelque chose d'informel, alors que la musique, elle passe justement par un canal qui est celui d'une sorte d'harmonie, comme je le disais, qui règne dès le départ et d'un ordre. Et alors, la nouveauté, puisque vous avez cité donc le satellite Planck et le mystère qu'il désigne, la nouveauté par rapport à des idées que nous avons développées dans les années 2000, nous avons exploré à travers le calcul ce monde possible qui pouvait exister avant le Big Bang. Nous sommes interrogés, nous sommes demandés, mais si l'univers, comme le reconnaissent tous les physiciens, naît brutalement il y a 13 milliards et 820 millions d'années au moment de ce déferlement d'énergie qu'on appelle le Big Bang, la grande question c'est mais d'où vient ce déferlement d'énergie ? C'est une question logique. Et la réponse, puisque on considère que la matière naît au moment du Big Bang, la réponse c'est qu'avant le Big Bang, il y a quelque chose, mais que ce quelque chose, fatalement, n'est pas d'ordre matériel. C'est quelque chose d'immatériel. Cependant, c'est très ordonné, puisque l'ordre, il est constaté par tous ceux qui s'intéressent au Big Bang de très près, il est constaté au moment du Big Bang. Si les grandes constantes, les grands paramètres cosmologiques qui règlent ce déferlement d'énergie n'étaient pas parfaitement ajustés, bien entendu, l'univers ne pourrait pas avoir engendré l'ordre que nous connaissons aujourd'hui, la vie, l'intelligence, la conscience, etc. Donc, de ce point de vue, on est sûr que l'univers n'est pas né par hasard.
Ça, c'est la grande question que vous soulevez. Vous vous engagez sur cette idée, finalement, que les informations précédaient la naissance de l'univers. Mmh. D'autres vous contredisent. On les a reçus, d'ailleurs, dans Chemin rêvant, comme Monsieur oui. Lumineux. Donc, illuminé, vous voyez le lapsus. Oui. mais ce qui est intéressant, c'est que comment se fait-il, finalement, que vous deux, Igor et Grishka, vous arrivez à penser à deux ? Parce que vous pourriez, tout en étant jumeaux, même s'il y a 40 minutes de différence, 15h10, 15h50, au moment de votre naissance, comment vous expliquez que vous arrivez à penser à deux et toujours sur la même longueur d'onde ? Parce que ça aussi, c'est comparable à la musique.
Oui, vous êtes d'abord, un duo d'abord duétiste. En effet, parce que notre duo, finalement, notre duo de travail est précédé par un duo de l'enfance. Nous avons évidemment, Grishka et moi, longtemps joué. D'ailleurs, on continue à jouer aujourd'hui. Hein. On a cette espèce de conscience ludique du monde. Mais au-delà de ça, nous avons aussi, et ça c'est notre travail de thèse, reconstitué une sorte de laboratoire privé entre nous, Grishka et moi. Grishka, lui, c'est les mathématiques, il a passé une thèse de maths. Moi, j'ai passé une thèse de physique théorique. On construit finalement les grands modèles théoriques de la physique avec des mathématiques. Et donc, c'est Grishka qui a construit tous les instruments, les approches, le théorème qui permet aujourd'hui, donc, qui m'a permis à moi en tout cas, d'établir de façon robuste, solide, les idées qui sont les nôtres sur l'avant Big Bang.
Oui, parce que ce n'est pas seulement des intuitions. Grishka. Et ça fonctionne en effet sur la base de protocoles formels qui sont très contraignants en un certain sens. En tout cas, moi, la contrainte, ça a été que ce théorème unique dans ma thèse m'a pris plus d'un an de travail, de démonstration. Donc pour arriver à découvrir vraiment, un théorème ne se construit pas, il se découvre finalement. Hein. Mais cette découverte, elle prend du temps parce qu'il faut cheminer de manière certaine dans des instruments qui sont complexes. Et finalement, eh bien oui, c'est au bout de ce travail, il y a une quasi-certitude formelle qui permet ensuite d'être appliquée. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce travail-là d'application a été facilité. Parce que tout simplement, moi qui suis mathématicien, j'arrive à transmettre facilement mes idées à Igor qui est physicien théoricien. Et du coup, ça converge. Et ça converge très très facilement, très vite. Souvent, les individus sont séparés les uns des autres. Je parle au moins en sciences. Parce que les protocoles sont très différents, les langages ne sont pas les mêmes, ça coïncide mal, c'est un peu la tour de Babel en science. Chez nous, non. On a la chance d'avoir une petite unité qui est petite, mais qui est très cohérente et quelque part qui est efficace parce qu'on est toujours du même avis.
Et en devenant les scientifiques que vous êtes, alors que vous aviez commencé à 18 ans avec le fameux temps X, est-ce que vous avez eu l'impression de casser la petite musique du déterminisme ? Parce que finalement, l'émission ne dure qu'un certain temps. Bon, elle a duré 10 ans. Et est-ce qu'il y avait cette forme aussi, cette volonté en vous de casser peut-être le rail ou la partition sur laquelle on vous aiguillait après, même si vous étiez de bons vulgarisateurs, après être passé sur un média comme TF1, il y avait à un moment ce besoin de dire « Ok, la partition, elle n'est pas écrite comme
oui,
vous pensez. »
Oui, bien sûr. C'est ce que nous avons fait, puisque nous avons refusé la proposition qui nous était faite par TF1 à l'époque. Christian Dutoit nous avait demandé de réfléchir à une émission du soir en 90. Et on lui a répondu « Écoute, non, on est aujourd'hui sur un autre projet qui consiste à défendre une thèse de doctorat sur l'origine de l'univers. »
Alors, dans ce livre, Le mystère du satellite Planck, il y a des moments poétiques, comme par exemple quand vous racontez, vous, tous les deux, Igor et Grishka, selon nous, il est tout aussi raisonnable de penser que notre univers n'a pas de bord. Là encore, l'analogie avec la Terre nous sera utile. En effet, on peut aller tout droit sur notre planète sans jamais se trouver tout à coup au bord d'un gouffre. Autrement dit, on ne rencontre jamais les limites sur notre monde. De la même manière, il est plausible d'affirmer qu'on ne rencontrera jamais le moindre bord, la moindre limite à l'univers. Il s'agit d'un point de vue largement accepté aujourd'hui. Et nous, eh bien, ça nous a inspiré évidemment une petite escapade musicale et charmante.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Igor et Grishka Bogdanov, on souhaite évidemment que cette voix charmante et espiègle de Julie London avec Fly Me to the Moon vous charme, parce qu'il y a quand même une part de poésie, d'espièglerie, et puis surtout quand on remonte au pourquoi de votre passion pour l'univers, tous les biographes, ceux qui racontent votre vie, expliquent bien que dans ce fameux château du Gers, c'est cela, il y avait cette grand-mère extraordinaire, vous avez été... confronté, et c'est une confrontation, mais c'est un remue-ménage en tout cas, des personnages illustres comme Malraux ou Aragon, et c'est eux qui vont vous donner le goût du futur. En tout cas, le goût d'avoir envie d'investiguer le futur.
Bien sûr. En un certain sens, nous sommes, de ce point de vue-là, fidèles à cette belle pensée de Nietzsche qui dit que pour explorer le futur, il faut avoir la mémoire longue. Et donc, cette mémoire, nous l'avons puisée tout autour de nous. D'abord, en effet, dans notre enfance, dans ce lieu qui était tout à fait exceptionnel par la richesse des personnes qui le peuplaient. L'imaginaire aussi de notre grand-mère, de notre mère, de papa, ces personnages qui sont des rêveurs d'avenir, comme le disait tout à l'heure Igor. Ce voyage dans notre enfance a été une initiation constante. Très poétique sans doute, c'est pour ça que reste chez nous une attraction qui est irréductible pour le monde de la poésie et que nous entrons, je dirais, par la voie sensible justement dans la science. Et la voie sensible, elle est aussi liée à des adjacences vers la poésie, vers des intuitions, vers des choses qui sont moins formalisées mais qui sont non moins importantes. Donc c'est vrai que ce parcours-là très dense dans notre enfance, eh bien, il se poursuit aujourd'hui et notre regard sur l'avenir est une façon, comme on le dit souvent dans une formule, de ne pas oublier l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de l'avenir.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté ensuite aussi de partir à la découverte des thèses de Roland Barthes ? Parce que tout ça, on ne le sait pas forcément. On a l'image fabriquée. Qu'est-ce qui vous a apporté dans ce cheminement ?
Énormément. D'abord, je crois que Roland Barthes a fait de nous des écrivains. on ne serait probablement jamais devenus les mêmes écrivains si nous n'avions pas côtoyé Barthes de près à l'école des hautes études où nous étions ses étudiants et si nous n'avions pas été fascinés par son génie, qui était le génie de l'écrivain, enfin le génie de l'écriture. On connaît à peu près par cœur tous ses livres, depuis Le Degré Zéro, Mythologie, et puis jusqu'au dernier livre, comme La Chambre Claire. Donc c'était quelqu'un qui nous a profondément marqués. Il a, je crois, éclairé toute notre carrière d'écrivain. Oui. Et je me souviens de lui à chaque fois que j'écris quelque chose.
C'est vrai qu'en plus d'avoir... le privilège d'être inscrit ou d'avoir été inscrit dans le grand séminaire donc de l'école des hautes études.
Et le petit.
Mais oui, alors en plus de ce privilège-là, on a eu ce bonheur, qui est un bonheur intellectuel, d'être de ce petit séminaire, qui était le petit séminaire donc, fondé sur des études de doctorales, puisque avant de faire des thèses en sciences, on a fait des thèses doctorat en sciences sociales, si on peut dire, en sciences du langage.
Sémiologie,
qui n'ont pas été achevées parce que malheureusement, Roland Barthes a disparu trop tôt, d'une manière accidentelle. Enfin, en tout cas, nous étions avec lui dans ce petit cénacle. Et comme il le disait, c'est une tresse où s'entrelacent des sentiments plus que des idées. En tout cas, elles sont ces idées fondées sur des affects. Et Roland est quelqu'un pour lequel nous avons... un immense respect et une immense affection.
Swing low, sweet chariot, coming for carry. Sweet.
Swing Low, Sweet Chariot au cœur de Chemin Rêvant, la voix de Roland Hayes. Alors l'histoire veut qu'en 1925, ce chanteur participe à un concert à la mémoire d'un défunt monarque autrichien, qu'il tombe amoureux d'une comtesse, qu'une fille adultérine naisse, et que cette fille adultérine, elle va avoir un lien direct avec vous, Igor Ekrichka Bogdanov.
Oui, c'est notre maman. Et en effet, nous avons vécu toute notre enfance dans le souvenir de quelqu'un que nous n'avons rencontré qu'une seule fois. Il était en concert à la salle Pleyel à Paris et nous l'avons vu sur scène. C'était un moment extraordinaire. On avait 4 ans à cette époque-là. Donc Roland Hayes, qui est une des grandes figures aux États-Unis. Là-bas, tout le monde le connaît, absolument. Il a été le premier chanteur noir à quitter le domaine du Negro spirituel pour faire autre chose, et en particulier pour chanter des airs d'opéra. C'est ce qu'il était venu faire à Schönbrunn. Et donc, nous avons en effet, à travers lui, un héritage direct avec, disons, la musique chantée, la musique qui sort d'une voix. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on écoute Roland Hayes, on est réellement transporté vers le rêve justement cosmique. Hein. C'est un petit peu ça qu'il a dans sa voix.
Surtout que ce chanteur avait aussi du sang Cherokee, ce qui est incroyable.
Oui, absolument,
aussi.
Oui, son propre père était un chef Cherokee. Donc nous avons une sorte de damier qui est au-dessus de nos générations et c'est quelque chose qui nous ravit.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous l'avez rencontré, vous aviez 4 ans, avec l'admiration. En même temps, la grand-mère qui l'a connue a dû fuir l'Autriche. C'est pour ça qu'elle est arrivée en France, pour fuir le scandale. Et on serait tenté de vous demander si, compte tenu de ces circonstances, on n'avait pas dans la famille entretenu une image négative du personnage, avec peut-être même une sorte de détestation ou de haine, ce qui aurait pu être le cas, puisque quand même ça va chambouler le destin de votre grand-mère qui normalement serait restée en Autriche et aurait vécu une autre vie. Et d'une certaine manière, sans mauvais rapprochement, son big bang à elle qui va changer sa vie, c'est ce moment d'amour. Il n'y a jamais eu cette détestation, vous n'avez jamais ressenti ce
ressentiment ? Non, jamais, vraiment pas, pour deux raisons. D'abord parce que dans les destins, il y a toujours quelque chose de profondément légitime, en ce sens que l'histoire se charge de remettre les choses à leur place. Et que lorsque Grechka et moi, nous avons eu entre 5 ans et 10 ans le plaisir de découvrir l'Autriche à travers ma grand-mère, nous nous sommes rendus compte qu'elle était là-bas absolument chez elle. Et que non seulement elle y était chez elle, et c'est le deuxième point, mais c'est qu'elle y était presque accueillie comme une héroïne. Elle a réellement créé une légende là-bas, en Autriche, et tous ceux de notre famille autrichienne, puisqu'elle a eu 4 fils avant notre mère, la considérait vraiment comme quelqu'un d'extraordinaire au sens le plus littéral du terme. Donc, ce qui pouvait apparaître pendant la première période dans les années 25-30 comme une blessure, c'est devenu au contraire a blessing, au sens
anglais du terme, évidemment, une bénédiction.
Terme, une bénédiction, voilà.
Vous parlez de cette bénédiction, blessing, mais si on revient justement au côté peut-être spirituel du mystère du satellite Planck, si on va jusqu'au bout de votre démarche, vous écrivez effectivement que lorsque nous avons publié nos recherches dans les revues scientifiques entre 2000 et 2002, puis dans des ouvrages grand public à partir de 2004, nous avons déclenché une furieuse tempête à travers le monde. À l'époque, il était encore impossible de parler de ce qui avait pu exister avant le Big Bang. Oui. Mais depuis, les choses ont changé, puisqu'il y a eu le satellite Planck, il y a eu des images.
Oui.
Est-ce que finalement, avec ce livre, on ne remet pas en cause aussi les religions ? Parce qu'on parlait de ce côté « May God bless you », évidemment, cette formule incantatoire et religieuse, mais est-ce que c'est ça, en fait, la difficulté aujourd'hui ? Parce que si on remonte à l'avant-création de l'univers, le point de départ, d'ailleurs, ce tout petit point, il est au pôle Nord aujourd'hui, il est localisable au pôle Nord, c'est ça ?
En fait, ce point, il est, comme dirait le philosophe Pascal, partout et nulle part. C'est un point qui n'est pas localisable, mais qui, en revanche, est descriptible. On peut le décrire à travers des équations et on sait à quoi il correspond aujourd'hui. C'est ce qui fait le fond de la théorie du Big Bang. Mais vous parliez tout à l'heure de ce bouleversement. D'abord, c'est vrai que ce livre, il décrit une révolution. Mais une révolution qui est double. Elle est d'abord scientifique, parce que pour la première fois, les experts d'une mission scientifique, qui est la mission du satellite Planck, les plus grands experts reconnaissent que ce qui est observé dans cette première lumière, ce mystère qu'ils appellent une anomalie profonde.
Parce que le satellite Planck va nous donner donc une lumière de l'univers, une image, évidemment pas à l'instant de la naissance, mais 380 000 ans
après, en effet. Alors, 380 000 ans nous séparent du Big Bang, mais on voit déjà, dans cette première lumière, des vestiges de ce qui s'est passé beaucoup plus tôt, y compris à l'instant de Planck, c'est-à-dire au moment du Big Bang, et aujourd'hui, les experts le reconnaissent, probablement avant le Big Bang. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Alors qu'ils ne le disaient pas il y a encore une dizaine d'années avec les images qui étaient transmises par les satellites antérieurs à Planck, notamment WMAP, et puis encore plus tôt grâce à ce satellite qui s'appelle Kobe, lancé par la NASA en 1989. Eh bien, tout simplement parce que le satellite Planck est 1000 fois plus puissant que le premier satellite lancé en 89.
Donc, meilleure résolution.
Donc, une résolution qui est absolument extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelque chose de très mystérieux. On a vu une dissymétrie, c'est-à-dire une différence entre le pôle nord et le pôle sud de ce bébé univers. Pourquoi un bébé? Parce qu'il a juste 380 000 ans d'âge. Donc il est tout jeune par rapport à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous avons 13 milliards et 820 millions d'années d'âge. Donc c'est beaucoup plus. Donc à cette époque-là, il y a... Donc, dans cette première lumière, une dissymétrie. Le pôle nord est légèrement plus froid que le pôle sud. Et ça, ça paraît rien du tout, mais ça ne peut pas s'expliquer dans le cadre de la physique d'aujourd'hui. Ce que disent les experts, c'est que ça fait voler en éclats les limites de notre science d'aujourd'hui. Et l'explication, quand ils vont solliciter ces experts une explication, ils disent... La seule possibilité d'en avoir une, c'est de remonter avant le Big Bang. La clé de l'énigme, en quelque sorte, se trouve peut-être avant le Big Bang. Ça, c'est une révolution scientifique énorme, parce qu'en effet, comme vous l'avez souligné, dans les années 2000, quand nous avons écrit notamment un livre qui s'appelle « Avant le Big Bang », eh bien, on a été très secoués par la polémique, parce qu'on ne voulait pas nous entendre sur ce terrain. Cependant, la révolution, elle va encore plus loin. Elle touche, comme vous l'avez dit, c'est le deuxième aspect, des zones qui sont de l'ordre des grands fondements philosophiques, métaphysiques et peut-être même religieux, sur lesquels repose notre compréhension de la réalité. Pourquoi ? Parce que si on s'interroge sur ce qui pouvait exister avant la naissance de la matière, c'est donc avant le Big Bang, la réponse, elle est presque contrainte par l'observation, elle est presque visible d'ailleurs dans cette première lumière. La réponse, c'est qu'avant l'univers matériel, il y a donc une phase immatérielle. Cette phase immatérielle, elle nous renvoie en quelque sorte à, on va dire, un état numérique de l'univers. L'univers était fait de nombres, selon nous. Il était fait de grandes constantes, de nombres purs, d'entités mathématiques. C'est là où on retrouve d'ailleurs la fameuse harmonie dont on parlait tout à l'heure. Et ces entités, eh bien, elles préexistent au Big Bang. Et là, ce n'est pas une pétition de principe. C'est une chose qui est quasiment observée. Et en tout cas, si on pousse les scientifiques d'aujourd'hui dans leur retranchement, ils ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'au moment même du Big Bang, il existait déjà des lois. Si ces lois n'avaient pas existé, le Big Bang n'aurait jamais été ordonné, tout simplement. Donc, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'univers ne serait pas né d'une façon ordonnée. Il serait resté chaotique. C'est pour ça que je disais que l'univers n'est pas né par hasard, car si on prend un tout petit exemple, ce nombre tout à fait banal et usuel, au moins en apparence banale, qu'on appelle le nombre pi, qu'on utilise tous les jours dans nos calculs, ce nombre pi, il était déjà là au moment du Big Bang, mais indifférent à la matière, il était déjà là avant même le Big Bang. Now is the month of May, when merry lads are playing, fa la 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 la, fa la 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 la. Now is the month of May, when merry lads are playing, fa la 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 la, fa la 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 la. Each with his bonny lass upon the greeny grass, fa la 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 la. Each with his bonny lass upon the greeny grass, la 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 la. The spring clad all in gladness doth love the winter sadness, fa la 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 la, fa la 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 la. The spring clad all in gladness doth love the winter sadness,
And to the bagpipe sound, the nymphs trail out their grand. And to the bagpipe sound, the nymphs trail out their grand. File and vice sit we musing, youth sweet delight refusing. Fa la 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 la, fa la 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 la. File and vice sit we musing, youth sweet delight refusing. Fa la 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 la, fa la 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 la. Say dainty nymphs of steak, shall we play barley break? Fa la 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 la. Say dainty nymphs of steak, shall we play barley break? Fa la 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 la.
Vous écoutez Chemin rêvant, Olivier Nahum, sur France Musique.
Alors pourquoi déguster ce Nao is the Month of Maying, mis en musique par Thomas Morley, un des plus célèbres madrigaux de la Renaissance, interprété cette fois-là par The Toronto Consort, parce qu'en fait, il nous ramène effectivement à ce château de Gascogne.
À ce château et surtout à la musique que Grechka et moi, nous avons l'habitude de jouer ensemble. Oui, puisque nous jouons du luth, nous jouons de la guitare ancienne, beaucoup de pièces et surtout Grechka de John Dowland, Thomas Morley aussi d'ailleurs. Donc ce sont des musiques, et donc les musiciens qui sont à l'arrière de ces musiques, qui nous sont très familières. Alors évidemment, dans le cadre du château, ça prend une dimension extraordinaire. Il faut imaginer ça dans ce cadre-là, dans cet endroit-là, dans un endroit du 13e, 14e, 15e, 16e siècle. Donc en effet, tout cela nous est familier.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la musique arrive assez tôt dans votre vie, dès le départ, que vous êtes... Ce que l'on dit aujourd'hui, on dit ce sont des enfants surdoués. Est-ce qu'il y a un moment où, d'une certaine manière, vous avez dû masquer vos connaissances, peut-être justement pour avoir cette... Vous parlez de cette rigueur scientifique qu'on n'aime pas trop, finalement, les gens qui savent trop de choses sur trop d'univers. Est-ce qu'il y a un moment où, dans votre... Sans parler de stratégie, mais de, voilà, d'appréhension du monde.
Il y a nécessairement des restrictions que nous avons dû opérer, qui sont liés au caractère un petit peu troublant du double que nous représentons et que nous avons représenté très tôt, dès notre enfance. En fait, ce double, il invite en quelque sorte à la pluralité, comme disait Fontenelle, la pluralité des mondes habités, mais pour nous, c'était la pluralité des mondes habitables. C'est-à-dire des mondes qui, conceptuellement, pouvaient être enrichis par n'importe quel type d'exploration, de redistribution à l'infini du désir de comprendre et éventuellement de faire comprendre. Donc tout ça, au départ... Ça a été vécu comme une fête par nous. Et puis on s'est rendu compte, à travers notamment notre faculté de créer des langages, de créer des... que ce n'était pas facilement communicable et qu'il devait au départ, au fond, être filtré, cette espèce de désir d'expansion infinie. Et donc nous l'avons filtré à travers notre propre dialogue, enfin, en dialoguant beaucoup. Ce dialogue s'est
raffiné. Vous avez une langue à vous ?
Parce qu'on nous avions une langue à nous, en tout cas, dès le départ. Oui, on était complètement dans une espèce de langage cryptique. On pourrait citer des phases entières de ce langage, mais ça ne dirait rien à personne parce que c'était vraiment nous. Et du coup, ça a créé un monde qui n'était pas un monde clos, mais qui était un monde privé, une espèce de cosmos privé, pour reprendre un beau titre de roman de science-fiction. Et ce cosmos privé nous a permis d'être en permanence en état à la fois de suggestion théorique et en même temps de vérification expérimentale, puisque l'un pose des questions à l'autre, qui vérifie la pertinence de la question et apporte éventuellement un prolongement ou une confirmation. Et donc à partir de là, eh bien, c'est comme une sorte d'empilement, deux escaliers qui cheminent, un petit peu comme dans le château de Chambord, où on voit une espèce de double hélice qui est fabriquée par le génial Léonard de Vinci, où cette double espèce de spirale d'escalier se rejoint au sommet. C'est un petit peu ce qui se passe pour nous.
Mais est-ce que Igor, à un moment, dans ce cursus qui est pluriel, qui a mêlé la télévision, plusieurs disciplines, vous êtes dit, il y a peut-être un risque que malgré nos connaissances et notre curiosité, on soit trop en autarcie, comme un virtuose qui connaîtrait par cœur le violon, mais qui n'arrive qu'à jouer pour lui, tant les œuvres qu'il joue sont difficilement audibles par le commun des mortels.
En fait, on n'a jamais ressenti cette angoisse-là, pour une raison qui est probablement liée à l'éblouissement de la passion elle-même. Nous avions la passion de connaître, la volonté de savoir, comme dit le philosophe, et donc, en effet, ébloui par toute cette pas tout ce bouillonnement de savoir qu'on le ressentait à travers les mathématiques, à travers le dispositif de la physique théorique, par ces années qu'on a passées avec quand même des esprits extraordinairement brillants pendant nos années de thèse. Donc tout cela, finalement, nous a complètement, protégés du sentiment peut-être de frayeur ou d'angoisse face à une autarcie possible. Et lorsque nous sommes ressortis vivants, si je puis dire, de cette longue traversée de la thèse, ça a été 10 ans, c'est quand même très très long, eh bien nous avons eu à ce moment-là, nous avons ressenti, Grzeszka et moi, le besoin furieux de partager tout ça et de le faire connaître. Et c'est la raison pour laquelle nous avons écrit tout de suite au lendemain de la thèse, Avant le Big Bang. Qui est donc cet ouvrage dans lequel nous avons recueilli et rassemblé à peu près toutes nos idées, celles que nous avions trouvées dans notre exploration de l'avant Big Bang. Et puis ensuite, il y a eu tous les autres livres. Donc en effet, je crois que pour nous, la connaissance, la science, c'est un trésor. Un trésor que les scientifiques ne partagent pas toujours avec la générosité qu'ils devraient avoir. Grzeszka et moi, nous nous sommes dit, et ça a été d'ailleurs notre travail dans Temps X, et puis prolongé aujourd'hui à travers des livres, nous nous sommes dit, il faut partager cette connaissance-là, il faut partager ce trésor, il faut le donner aux autres. Et tout comme il existe, et on le dit souvent, une démocratie du pouvoir, eh bien, à côté de cette démocratie-là, il y en a une autre qui est celle du savoir. Et c'est cette démocratie-là qui nous intéresse.
Shine, you know more.
Alfred Deller au cœur de Chemin Rêvant, au cœur de la nuit, Flow My Tears. Alors, c'est Grishka qui le joue, cette partition de Dolan.
Oui, c'est, en fait, j'ai transcrit la partition qui était originellement écrite pour le luth, pour la guitare ancienne. Et à partir de là, je me suis astreint à chanter aussi bien que possible, bien moins magnifiquement que Deller. Mais en effet, je le joue avec beaucoup de plaisir parce que, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est un chant qui a des assonances presque métaphysiques. Dolan est un très grand compositeur parce que d'abord, la force et la justesse des harmonies, la beauté aussi, mais par les paroles. Il est shakespearien. Et quand on est shakespearien, on va très vite vers le mystère suprême.
Igor et Grishka, est-ce que la musique, c'est aussi un moment de... On dit tout le temps que c'est un moment de partage, mais vous vivez tout le temps en synchronisation permanente, en communion. Est-ce que c'est aussi un moment parfois où, j'allais dire, les individualités s'affirment?
Mais en fait, quand on joue ensemble, par exemple, on a joué du Bach ensemble, la fugue en sol mineur de Bach, c'est à deux guitares, et donc chacun fait son chant. Donc en effet, c'est un lieu de rencontre et un lieu d'échange. Mais au-delà de ça, il y a quelques jours, on réfléchissait justement à partir d'un morceau de musique que nous avons un peu improvisé ensemble. Et on a à ce moment-là commencé à discuter entre nous, et nous sommes parvenus à une conclusion. La conclusion, c'est que, et qui touche, vous allez le voir, le sujet même de notre livre.
Le mystère.
Pourquoi ? Parce que lorsqu'on peut improviser en musique, on sait très bien qu'il y a des génies de l'improvisation. Par exemple, Keith Jarrett au piano, c'est absolument génial. Mais il n'en reste pas moins, et c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, Grishka et moi, c'est que cette improvisation, elle se fait toujours à l'intérieur d'une grille. Au fond, ça nous a permis de conclure que l'univers n'improvise jamais. Et si il nous donne le sentiment d'improviser à travers l'émergence du hasard, ici et là, eh bien, cette improvisation, elle est toujours encadrée par des grilles, c'est-à-dire en fait par des lois qui ordonnent et architecturent puissamment l'univers, à tel point que rien n'y est laissé au hasard lorsqu'on considère l'histoire de l'univers au niveau cosmologique. Et le satellite Planck nous a montré, puisque au fond c'est un satellite cosmologique qui s'intéresse à ce qui s'est passé au tout début de l'univers, alors que cet univers naissant n'avait que 0,003% de son âge actuel. Il était âgé de 380 000 ans. Et bien quand on remonte à cette époque-là, et qu'on va même avant, et bien on se rend compte qu'il est puissamment ordonné, puissamment organisé, et que cette organisation évidemment ne laisse rien au hasard. C'est ça qui est encourageant.
Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, mais on lâche des contraintes. C'est-à-dire que petit à petit, lorsque l'univers, évidemment, entre en expansion et qu'il engendre la matière, puis de l'intelligence et l'organisation notamment de nos sociétés humaines, il est clair que le hasard, ce qu'on appelle le hasard, joue un rôle. Bien entendu, on ne va pas le contester. Cependant, le hasard, il faut le voir comme des degrés de liberté. C'est bien ainsi qu'on doit le comprendre, et ces degrés de liberté sont eux-mêmes installés dans quelque chose de bien plus lointain qui correspond à ce que nous avons appelé tout à l'heure une sorte de code cosmologique.
D'ailleurs, vous écrivez « Aujourd'hui, les physiciens s'accordent à peu près tous à reconnaître qu'à l'instant de Planck, l'instant du Big Bang, l'univers est puissamment encadré par un implacable cartel de lois et de paramètres cosmologiques qui gouvernent à chaque instant, chaque étape, la naissance de la matière, à tel point que certains n'hésitent pas à dire que si l'univers est unique, alors sa naissance, si parfaitement ordonnée, est vraiment un miracle. » Et ça nous a inspiré une musique qu'on associe souvent au mouvement des planètes d'ailleurs.
Thank you.
Bill Evans avec un orchestre symphonique et les arrangements de Klaus Ogerman pour cette pavane de forêt qui vous a plu, Igor et Grishka.
Beaucoup. Beaucoup, oui, parce qu'elle laisse justement filtrer ce qu'on pourrait apparenter à des vraies ruptures, des discontinuités, mais qui en réalité s'installent dans quelque chose de plus global, qui est une espèce de matrice musicale qui correspond toujours à la même ligne, à la même écriture. Et au fond, c'est un petit peu la manifestation, ce que nous disions tout à l'heure, dans la musique, de ces fameux degrés de liberté qui sont à l'origine du redéploiement de nos initiatives, de nos désirs, etc., dans nos vies quotidiennes.
Et comme on parle de musique, il y a aussi une histoire. Un manuscrit a été trouvé dans le fameux château de Gascogne, le fameux château du Gers. Il y a eu un manuscrit qui a été trouvé, un manuscrit musical.
Oui, absolument. C'est un manuscrit qui nous touche très près, qui appartient à un des plus grands, qui est Mozart. Et pourquoi avons-nous hérité de ce manuscrit ? Bien, tout simplement parce que, en fait, Mozart a été recueilli à l'âge de 5 ans et élevé, si je puis dire, par l'archevêque de Salzbourg, qui était le prince de Salzbourg, prince Colloredo, donc directement issu, c'est un ancêtre, directement issu de notre famille. Et donc, nous avons eu trois partitions et trois morceaux de Mozart et des lettres qui étaient dans une malle, une de ces fameuses malles en cuir épais que ma grand-mère avait emmenée d'Autriche.
Et quand on voit s'accomplir des choses comme ça, quand on réfléchit à tout ce que l'on évoque du hasard, est-ce que ça change votre rapport personnel à chacun de vous, à vous Igor, à vous Grishka, votre rapport au temps ? Parce que pendant que défilait la musique, on se disait que finalement, il y a deux façons de concevoir la vie. Finalement, la vie nous envoie des signaux qui n'ont pas de sens, ou alors la vie nous envoie des signaux qui ont un sens. Et ça rejoint ce que vous dites quand vous écrivez. Profitons de l'élan que nous communique Max Planck pour remplacer le mot force par celui plus facile à discerner d'information. On ne raisonne plus en termes de matière ou d'énergie dans l'univers, mais d'information qui va engendrer d'autres histoires par la suite.
Mais bien sûr,
ça c'est une vraie question que vous posez, et d'ailleurs qui repose la question du temps lui-même. Pourquoi ? Parce que nous avons bien vu, Grishka et moi, que pour raisonner de manière utile sur l'origine de l'univers, eh bien, il faut raisonner également sur le temps. Et nous avons vu apparaître deux formes du temps. Le temps réel dans lequel nous vivons et qui est décrit par une métrique que j'ai citée tout à l'heure, qui est la métrique de Lorentz. Et puis à côté de ça, il y a un autre temps, une autre forme qui s'appelle le temps imaginaire. Et le temps imaginaire, lui, il correspond à autre chose. Le temps réel correspond à l'énergie. Il faut de l'énergie pour faire du temps réel, si je puis dire. En tout cas, c'est le temps réel qui paramètre l'énergie. Par exemple, vous prenez une bougie, elle brûle dans le temps.
Oui.
Et elle brûle de l'énergie, bien sûr, elle va consommer de l'énergie. En revanche,
le temps imaginaire, ce n'est pas un temps de l'imagination. C'est un temps qui, sur le plan scientifique, a un sens, puisqu'il est tout simplement, c'est un axe qui est l'axe du temps, mais mesuré par des nombres imaginaires. Nombres imaginaires, les mathématiciens connaissent bien depuis, disons, le XVIIe siècle. Ce sont des nombres dont le carré est toujours négatif. Alors, évidemment, on ne peut pas les appréhender comme ça, hein, parce que 2 fois 2, ça fait 4. Mais pour arriver à créer un carré dont le résultat est négatif, ça pose un problème. Ce sont les nombres dits imaginaires. Descartes a eu cette belle inspiration de les désigner comme ça, ces fameux nombres.
Mais qu'est-ce qu'ils ont d'imaginaire ?
Ah ben, ils sont imaginaires en ce sens qu'ils ne sont pas réels. Tous les nombres réels, leur carré est toujours positif.
Pour répondre à votre question, 2 bouteilles au carré, ça va faire 4 bouteilles. Mais ce sont des bouteilles réelles, n'est-ce pas ? Alors que si ce sont des bouteilles imaginaires, moins 4 bouteilles, c'est irreprésentable. On ne peut pas se représenter ça, on ne peut pas dire moins 4 bouteilles sur la table. Donc du coup, on entre là dans un autre monde. Et comme je le disais tout à l'heure, si on peut associer le temps réel à de l'énergie, le temps imaginaire, lui, on va l'associer à de l'information. C'est ça, justement, qu'on a vu apparaître dans nos calculs. Et à partir de là, on voit que quand on vit, comme Grishka et moi, un peu dans le temps imaginaire, on comprend qu'on est à la source des informations qui constituent le réel dans lequel on vit. On vit dans une trame d'informations, dans un océan d'informations, dans une infosphère, comme on dit entre nous, Grishka et moi. Et de temps en temps, donc, on va quitter l'infosphère pour venir dans la sphère tout court du réel. Et c'est ça qui est, je crois, très enrichissant et qui, finalement, nous rassure sur la réalité globale. Parce que la réalité globale n'est pas seulement faite du temps réel dans lequel on vit, elle englobe autre chose qui est le temps imaginaire. Le temps imaginaire, lui, eh bien, il englobe tous ceux qui nous ont précédés, l'archevêque Colloredo, le prince qui a élevé Mozart, lui, il est dans le temps imaginaire. Mais c'est une information, puisqu'on y accède à travers la connaissance que nous en avons, la connaissance qui nous est transmise par l'histoire, par les films qui lui sont consacrés, etc. Donc, on voit bien que la réalité globale, elle ne s'arrête pas au présent. On voit bien qu'elle touche à la fois le passé et l'avenir. Et cette sphère globale, eh bien, on va l'appeler du temps imaginaire. Ce temps imaginaire qu'on a vu apparaître un jour dans les années 2000 de nos calculs.
Nous écoutions à l'instant cet extrait du Requiem de Mozart, le Lacrimosa, dans la version dirigée par le maître Giuliani. Et ainsi va se terminer Chemin rêvant. Alors, il y a le mystère du satellite Planck, édité chez Erol, que l'on peut lire. Finalement, on serait tenté de vous demander, Igor et Grishka, qu'est-ce qui vous tient encore éveillé? Parce que vous avez à affronter de nombreuses polémiques, de nombreux vents contraires qui auraient pu à chaque moment vous faire renoncer, puisqu'il y a eu des moments où la polémique était grande. Qu'est-ce qui fait que vous continuez votre chemin cherchant, en quelque sorte, et vous revenez avec ce livre, édité chez Erol, en disant, ben voilà, nous, On s'intéresse à ce qu'il y
a. Bien sûr, c'est la passion de savoir, la passion de connaître, la passion de faire reculer les frontières de l'ignorance.
Et puis le goût de la vérité, parce que finalement, cheminer vers la vérité, il n'y a rien de plus, entre guillemets, énergétisant que ça. C'est quelque chose qui vous tient non seulement éveillé, mais qui vous donne une énergie absolument colossale. Et cette recherche de la vérité, pour nous, elle coïncide avec ce sentiment d'avoir découvert quelque chose et que ce quelque chose, il faut le faire partager. Alors ce quelque chose, c'est quoi? C'est le mystère de l'avant Big Bang, on en parle ici. Et l'une de nos plus grandes surprises, ça a été de découvrir sur le site officiel du satellite Planck une rubrique intitulée « Avant le Big Bang ». Et avec un point d'interrogation, mais c'est avant le Big Bang est visité par les experts du satellite Planck d'une manière assez étonnante, puisqu'ils disent « Existe-t-il des traces de l'avant Big Bang ?» Exactement ce que nous disons depuis très longtemps, depuis à peu près une quinzaine d'années. Et donc, de ce point de vue-là, il y a tout à coup une espèce de façon indépendante, hein, d'une vérité scientifique, de cheminer et de rejoindre quelque chose qui a été une intuition chez nous. Donc en effet, ça, c'est une satisfaction, mais pas par rapport à une sorte de joie narcissique. Non, c'est bien au-delà de ça. Ce qui est important, c'est ce que dit finalement Platon lorsqu'il associe le beau, le bien et le vrai, c'est d'avoir une sorte de coïncidence avec ce qu'il y a de plus profond dans le mystère du monde. Et cette coïncidence, nous l'éprouvons et c'est elle qui nous porte. C'est elle dont nous sommes à quelque part les chevaliers.
Les navigateurs des grands fonds de la vérité.
Eh bien, merci Igor et Rishka Bogdanov d'avoir partagé ce moment particulier. Grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Françoise Cordet, Anna Cassery, Annie Comier, Martine Moni, Philippe Alares, Michel Mestre. Et ce soir, aux commandes, il y avait Pierre Mine. Merci aussi aux auditeurs nombreux qui étaient présents. Et puis, on va retenir deux phrases clés peut-être de cette émission. Comme disait Françoise Sagan, on ne sait pas ce que le passé nous réserve. Et comme dirait Pessoa, tout va dans le sens de l'œuvre. Et ensemble, messieurs, vous qui venez de l'espace, nous allons faire le compte à rebours. Comme ça, Chemin Rêvant va s'envoler dans l'orbite des souvenirs des auditeurs. Alors, on va compter ensemble.
Dans
5,
le temps imaginaire.
Dans le temps imaginaire. Alors, allons-y ensemble.
5, 4, 3, 2, 1, 0.